Podcast.com. Rencontre par Marc Zisman.
Nous sommes au Duc des Lombards pour un nouveau podcast de Cobos.com. Nous sommes au Duc des Lombards pour rencontrer Stockler Rosenberg, du trio Rosenberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez bien français déjà ?
Bon, bien, je me débrouille pas mal. Quoi.
C'est rare pour un Hollandais.
Ah oui, parce que je suis marié avec une Française.
Vous avez le professeur à la maison. Quoi.
C'est pour ça que je parle un peu français. Quoi.
Vous allez publier à la fin du mois d'avril un nouvel album de votre trio, un hommage à quelqu'un d'assez mythique pour le jazz en général et en partie également pour le jazz un peu manouche, qui est Stéphane Drapelli. Est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête depuis des années ou comment c'est venu exactement ?
En fait, j'ai commencé cet album parce que c'est le 100e anniversaire de Stéphane Drapelli. Mais en plus, moi je connais Drapelli personnellement, c'est une amie de trio Rosenberg. Il nous a invité aussi de jouer pour son 85e anniversaire à Carnegie Hall à New York. Et après, j'ai resté en contact avec lui. Quoi. C'était une amie, j'ai joué partout en Europe avec lui un petit peu. Et bon, je me disais, c'est un bon moment pour faire une hommage à Drapelli.
Comment s'est fait la sélection, le tracklisting, le choix des thèmes ? Est-ce que vous aviez des idées précises ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues pendant l'enregistrement en studio ? Comment ça s'est passé, le choix des thèmes et des compositions ?
Bon, j'ai choisi quelques thèmes de Drapelli, comme Evelyn. C'est une composition qu'il a composée pour sa fille. Mais en général, en fait, j'ai choisi un peu le morceau que je jouais avec lui personnel. Alors, tu peux dire aussi que c'est un peu un répertoire au Club de France. Quoi. Ouais. C'est, bon, pour moi, Django et Drapelli, c'était le deux meilleurs musiciens pour notre style. Quoi. Alors, tu peux dire que c'est une Drapelli Django répertoire. Ouais.
Donc il y a un invité, parce qu'il y a comme un violoniste sur le.
Bien sûr.
Sur l'album, Tim Klipphuis.
Tim Klipphuis.
Klipphuis, ouais. Mauvaise prononciation.
C'est un nom hollandais. Ouais. Tim, ça fait déjà une dizaine d'années que je connais bien même. Et j'ai joué avec lui à droite, à gauche aussi, en Hollande, sur des jam sessions, des trucs comme ça. Et son grand inspiration de Tim, c'est bien sûr Drapelli. Bon, comme j'ai enregistré cet album, sur certains morceaux, je me disais, c'est comme si que j'écoute Drapelli. Quoi.
Est-ce que justement, il n'y a pas des moments où ça, c'est pas que ça pose un problème, mais est-ce que, comment, comme ça, quand quelqu'un rend un hommage, alors c'est peut-être plus à lui qu'il faudrait poser la question, quand quelqu'un rend hommage à son maître, son inspiration, sur un album intitulé Tribute à Stéphane Drapelli, est-ce qu'il y a justement une difficulté de ne pas faire juste de la copie, mais d'amener la touche personnelle ?
Non, mais il a pas, mettons, copié des phrases, des trucs. Bon, il a copié quelques phrases, comme moi, avec Django, c'est pareil. Bon, de leur racine, pour moi, c'est, si tu écoutes ma musique et mon improvisation, tout, tu vas tout de suite comprendre que c'est une école de Django. Bon, pour lui, c'était pareil. Quoi. Il a pas copié des solos de Drapelli, mais il a pris sa inspiration de cette grand musicien Drapelli.
Le live est quelque chose de important pour le jazz en général, mais c'est vrai que dans le jazz swing, le jazz manouche, c'est quelque chose, il y a vraiment souvent une communication intense avec le public. C'est quelque chose pour vous, je ne vais pas vous demander si les concerts sont plus importants que le studio, Mais comment vous faites la part des choses quand vous vous trouvez C'est deux choses différentes Il y en a un qui est la continuation. Comment ça se passe?
De toute façon, pour moi, c'est plus facile de jouer en live qu'enregistré dans un studio, parce que là, tu as coincé, tu veux faire le mieux, et de toute façon, un musicien, il est jamais content qu'est-ce qu'il enregistre. Ça, c'est vrai, j'ai parlé avec plein de gens qui enregistrent, c'est toujours pareil. Deux ans après, tu dis, oui, mais peut-être, si je jouais ça, c'était peut-être mieux, mais ça, c'est toujours, ça reste, je veux dire. Mais le mieux pour moi, c'est live. Bien sûr, là, je me sens libre, improvisé et tout.
Techniquement, comment ça se passe? Est-ce que vous pratiquez votre instrument, qui est quasiment, c'est votre troisième main, j'allais dire, c'est greffé, votre guitare, elle est greffée à vos mains. Est-ce que vous pratiquez régulièrement? Comment ça se passe?
Bon, en fait, comme j'étais jeune, je commençais à l'âge de 10 ans. Jusqu'à 18 ans, je travaillais comme un fou, quoi. C'était 7-8 heures par jour que je travaillais. Et bon, maintenant, il y a tellement de concerts que je me dis, bon, je suis marié, j'ai 3 enfants. Bon, je reste un peu à la maison et je prends pas la guitare, quoi. Des fois, pour une semaine, 10 jours, je touche même pas de la guitare.
Ça vous arrive de pas jouer du tout pendant 10 jours, quand même?
Ah oui, oui, bien sûr. Mais c'est à cause de mes enfants, de la famille. Bon, c'est pas juste la musique qui compte, c'est aussi de la famille pour moi, personnellement.
J'imagine. Comment va se dérouler ce soir où je joue au Duc des Lombards? Est-ce que ce sera un concert hommage, qui sera hommage à Grappelli également, ou vous jouerez différents thèmes ce soir?
Ben, je crois que nous allons mélanger un peu avec du standard, peut-être des compos, mais je crois pour 80% le répertoire de nouveau disque, quoi.
Est-ce que vous dites que de temps en temps il vous arrive de pas jouer de guitare pendant plusieurs jours? Est-ce que vous, en tant que mélomane, vous écoutez beaucoup de musique, musique des autres, etc.? Vous allez au concert, vous achetez des disques?
Ah oui, bien sûr. Bon, si, ça veut dire si je joue pas pendant une semaine ou 10 jours, ça veut dire que j'écoute quand même de la musique toute la journée, comme je m'assieds dans ma voiture.
Le réflexe, c'est un...
Direct, un disque. Bon, j'écoute pas justement la musique de Grappelli et Django, bien sûr.
J'imagine.
C'est directement un disque de la musique, quoi.
C'est quoi les derniers disques qu'il y a dans votre voiture en ce moment?
Récemment. Le dernier disque que j'écoutais là, c'était ma disque même, le hommage à Grappelli.
Et il y a des choses qui vous étiez déjà, parce que vous disiez tout à l'heure d'être perfectionniste, vous êtes jamais, qu'un musicien parfois est jamais content, est-ce que déjà vous êtes...
Bon, déjà, comme j'ai enregistré cette disque, ça fait déjà 2 mois de ça. Et la répétition, c'était dans le studio. L'arrangement, c'était dans le studio. Alors, ça veut dire, pour certains arrangements, on va répéter tout de suite, là, pour voir, c'était comment, genre, ah oui, c'était ça. Souvent, c'est comme ça, quoi.
Enregistrer et publier un album en hommage à Grappelli, est-ce que c'est aussi un moyen de perpétuer une tradition pour les jeunes générations, pour pas oublier sa mémoire, etc., pour qu'on n'oublie pas qui est Grappelli? Il y a aussi ce côté de transmission, d'héritage?
Bien sûr, parce que moi je trouve que c'est grâce à l'école de DJ Lockwood aussi qui cette culture reste un peu en France, je crois, le plus grand... Le pays qui a le plus de culture avec le violon du jazz, je crois que c'est la France, quoi. Et je crois que c'est aussi grâce à l'école de DJ Lockwood que je vois maintenant plein de jeunes, même en Belgique, en Hollande, qui travaillent du jazz au violon.
justement en rencontrant différents musiciens qui jouent le jazz manouche à travers l'Europe. Est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des pays? Par exemple, vous avez l'impression que en Hollande, il y a des spécificités qu'on ne trouve pas en France. En France, il y a des spécificités qu'on ne trouve pas en Hollande. Comment ça se passe? Ou finalement, le langage est assez similaire?
Moi, personnellement, je crois que chaque pays il a quand même sa style. Parce que, par exemple, si j'écoute du jazz manouche de Hollande, si j'écoute quelqu'un jouer sans voir qui c'est, déjà, je peux dire que c'est, mettons, du jazz manouche qui vient de la Hollande.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup qui, c'est malheureux pour dire, mais c'est la vérité, qui copient beaucoup sur moi, quoi.
D'accord.
Et par exemple, si j'écoute de musiciens d'Alsace, là, je me dis directement, mettons, bon, lui, il vient d'Alsace, quoi.
D'accord,
il y a quand même un
des
peu...
Des codes ou des...
Voilà,
ou
des styles... Bon, l'Alsace, c'est plus Charles Schmitt, quoi. Oui, c'est comme ça que ça marche.
D'accord. Et donc, vous disiez écouter évidemment d'autres choses que le jazz manouche. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, par exemple? Quels sont les styles ou les musiciens, peut-être, qui vous influencent et qui n'ont rien à voir avec le jazz manouche? Est-ce que vous écoutez, par exemple, j'imagine, du flamenco ou des choses différentes?
Moi, j'écoutais beaucoup au flamenco dans ma vie. J'étais influé par Paco de Lucía aussi. Bon, pour moi, Paco de Lucía, c'est comme Django, sauf que c'est un autre style. Mais je veux dire, Paco, il a les mêmes forces sur les guitares que Django. Il change tout le temps, quoi. S'il fait un disque maintenant, tu dis même que bon, là, il a au plafond avec ses disques. Un an après, ou deux ans après, il sort encore un truc plus nouveau, plus... Il est incroyable. Pour moi, c'était une grande influence, Paco de Lucía. Sauf que je ne joue pas de la flamenco, quoi.
Il n'a pas voulu vous donner de cours. Ben, merci beaucoup, puis bonne chance pour votre concert ce soir et pour la sortie de votre nouvel album, donc en hommage à Stéphane Grappelli. Merci.
Merci à vous. Merci.
Rencontre par Marc Zisman.